Excellente fin d'après-midi à vous tous et toutes. Il est 17h05 sur les ondes d'Alger Chien 3. Bienvenue et merci de nous retrouver. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau tour de votre magazine le 17-19 Le Mag. Aujourd'hui, exceptionnellement, jour de match 17-18 Le Mag, quand vous le savez, entrée en lice du 11 national de l'Algérie. Nevers pour la deuxième rencontre face au Burkina Faso dans le groupe E, dans le camp de l'édition de la CAN 2025 dans sa 35e édition. Le 17-19 Le Mag, votre magazine pour vivre, revivre, décrypter, analyser l'actualité, toute l'actualité avec l'ensemble de nos journalistes et chroniqueurs. Aujourd'hui dans Zoom sur le monde avec Karim Hasnaoui, nous allons parler de l'exploitation des richesses en faveur du développement économique de l'Afrique subsaharienne dans un entretien réalisé, je le disais, présenté par Karim Hasnaoui. Et on va parler également de la mise en place de bonnes politiques qui permettraient aux pays du continent de construire des économies solides et diversifiées. Et comme vous savez, tomber de rideau sur la 33e édition de la Foire de la production algérienne. Et c'était donc une édition qui a mis en lumière des entreprises décidées à moderniser leur secteur, à répondre au plus près aux besoins du citoyen, des opérateurs économiques. C'est donc le reportage du jour signé Samy Alloun. Le correspondant du jour avec Inès Mohamed, on va parler de l'établissement qui a signé avec l'université Djilali l'IEBS de Sidi Blabest, qui s'engage dans la récupération et le traitement des déchets métalliques. Oh, c'est mignon, Sidi Blabest. Et dans l'instant santé, aujourd'hui, on va parler, en cette période d'hiver, des services de réanimation qui reçoivent énormément de malades victimes du virus de la grippe. Ces malades arrivent avec des détresses respiratoires, notamment même lorsque les médecins arrivent à les sauver. Et un mot de culture et le Festival National du Théâtre Professionnel qui se poursuit au Théâtre National Algérien Mahedine Bechtarzi à Alger. Et 18 pièces en compétition. Parmi les troupes en lice, l'on cite le Théâtre de Délices qui marque sa présence avec Lire, roi des sculpteurs. Le décor est planté, une équipe peut vous servir jusqu'à 18h. J'ai nommé Céline Gasseb à la régie d'antenne, Khaled Mansouri à la console technique et Aïcha Hammer de retour au Mag, tout comme moi, momentanément du moins, à la réalisation de ce magazine. J'espère passer d'agréables moments en notre compagnie. Restez avec nous, nous sommes en direct jusqu'à 18h en attendant toute l'équipe de la sportive pour vivre en direct et sur les ondes d'Alger Chien 3, la rencontre Algérie-Burkina Faso. À 17h08, The Verve, Lucky Man.
Happiness, something in my own place. I'm studying niggas.
À l'écoute du 17-19, le mag, il est 17h11.
Le reportage du jour.
La 33e édition foire de la production algérienne referme ses portes après plusieurs jours d'exposition dédiée au savoir-faire national. Engins, machines et camions de toutes catégories ont attiré un large public venu découvrir des équipements destinés aussi bien à l'agriculture, aux travaux publics qu'aux services environnementaux. Entre innovation, production locale et solutions sur mesure, cette édition met en lumière des entreprises décidées à moderniser leur secteur et à répondre au plus près aux besoins du citoyen et des opérateurs économiques, nous dit Samir Aloun dans ce reportage.
Un dernier jour ensoleillé pour la foire de la production algérienne qui a proposé durant cette 33e édition une exposition grandeur nature d'engins, de machines et de camions destinés à différents usages. En famille, enfants et jeunes prennent des photos pour immortaliser le moment. Destinés à diverses utilisations, certains équipements ciblent particulièrement le domaine agricole, allant des moissonneuses-batteuses aux tracteurs et trains remorqueurs. Bilal Bachar, responsable commercial zone sud au sein de Mahindra.
Là, on est spécialisé dans les machinisme agricole, les équipements, les charrues, les cover crops, etc. À la base, 2004, on a fait la commercialisation, j'ai les tracteurs, la revente. Après, 2014, dans un projet de production, dans la production, le montage. Et 2025, la reprise, Inch'Allah, on a fait le montage des tracteurs avec un taux d'intégration de 8%. On fait l'avant-peinture, après peinture, quelques pièces. Inch'Allah, pour la deuxième année, 15% Inch'Allah, d'intégration.
Des entreprises proposent également du sur-mesure selon les besoins exprimés par leurs clients. C'est le cas d'une société qui fabrique et équipe des camions pour différentes activités, gestion des déchets, travaux publics ou encore services environnementaux. En tenant compte des spécificités de chaque opérateur ou collectivité, cette démarche permet non seulement d'améliorer l'efficacité des services publics, mais aussi de soutenir la production nationale et la création d'emplois. Yasser Boumaraf, chargé commercial de l'entreprise Dardiaf Motors, spécialisée dans la fabrication d'équipements et de carrosseries sur camions.
On a toute une gamme de tonnage, à partir du petit tonnage jusqu'au lourd, 20 tonnes, 30 tonnes, dans le cadre d'environnement, de travaux publics aussi, selon la demande du client en particulier aussi. Beaucoup plus les communes, les APC, l'ADL, le CEAL, tout ce qui est environnement. Depuis le début, c'était le taux d'intégration, il était environ 50%, mais les dernières années, il est devenu à 80%.
Les machines et matériel agricole attirent eux aussi l'attention des visiteurs. Beaucoup se disent impressionnés par le Made in Bledi, qui gagne en qualité et en fiabilité. Tracteurs, moissonneuses ou équipements de préparation des sols témoignent du savoir-faire local et de l'effort consenti par les fabricants pour répondre aux besoins réels des agriculteurs. Fethi Abdelhaq, chargé de la communication au sein de l'entreprise nationale de commercialisation de matériel agricole.
Nous participons avec une large gamme de matériel et de machines agricoles, toutes catégories confondues, qu'il s'agisse de traction, de récolte ou de préparation des sols. Les équipements et les machines agricoles ne posent aucun problème car toutes les catégories sont désormais couvertes par des produits fabriqués localement. L'un de nos objectifs, lors de cette participation à la 3e édition, est de mettre en valeur les capacités de production de notre entreprise. Dieu merci, les visiteurs ne cessent d'affluer, ils filment, posent des questions, montrent beaucoup d'intérêt, ils ne s'attendaient pas à ce que le niveau niveau et la qualité de la production ait atteint ce stade.
Une 33e édition qui s'achève et qui confirme une fois de plus la place croissante de la production nationale et l'engagement des entreprises algériennes à innover et à investir dans des secteurs stratégiques, de l'industrie à l'agroalimentaire, en passant par l'agriculture.
17h15, c'était Samuel Loun qui a signé aujourd'hui le reportage du jour. Et à 17h bientôt, 16 minutes, place à Karima Hasnaoui et Zoom sur le monde.
Zoom sur le monde.
Je l'annonçais en début de ce magazine, le continent africain dispose de richesses naturelles et représente 30% des réserves minérales mondiales, 8% du gaz naturel, et 12% du pétrole. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, seulement l'Afrique subsaharienne affiche un bilan mitigé avec une économie dépendante et volatile. La mise en place de bonnes politiques permettrait aux pays du continent de construire des économies solides et diversifiées. Et l'exploitation des richesses en faveur du développement économique de l'Afrique subsaharienne dans cet entretien, je le disais, réalisé par Karima Hasnaoui.
L'extraction des ressources constitue un enjeu majeur de l'économie régionale, représentant environ 30% des revenus des États. C'est ce qu'affirment les auteurs de l'ouvrage « Les ressources naturelles, un enjeu clé pour l'avenir de l'Afrique ». Professeur Sulaiman Keïta, vous êtes enseignant-chercheur spécialiste des finances publiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une vingtaine de pays de la région affichent une dépendance importante aux revenus des ressources naturelles, les exposant ainsi aux risques liés aux fluctuations des prix. Quel lien établir entre ces chiffres et les politiques de gouvernance pratiquées actuellement ?
Il faut rappeler que depuis les années 60 jusqu'à nos jours, la plupart des pays qui exploitent effectivement un certain nombre de ressources n'ont pas su diversifier les ressources en fonction des besoins de développement économique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les politiques de développement sont adossées à l'exploitation des ressources. Ce qui fait que donc, quand les ressources sont dans une phase de décroissance économique, ça impacte sur la croissance de ces pays-là. Aujourd'hui, c'est une réalité en Afrique où nous voyons que justement, le niveau de croissance économique est étroitement lié au niveau de l'exploitation de ces ressources. Ce qui pose un problème lorsque, par exemple, au niveau international, le prix international pose problème, ou bien ces ressources-là n'ont pas ce qu'on appelle un certain nombre de capacités de production.
Le sous-sol de l'Afrique subsaharienne est largement sous-exploré. Est-ce en raison de la recrudescence de l'insécurité dans la région?
En fait, l'insécurité de la région est une des raisons. Deuxièmement, le manque de diversification de ces ressources-là, en tout cas de l'innovation liée effectivement à l'exploitation de ces ressources-là. N'oubliez pas que dans la plupart des États africains, justement, qui détiennent ces ressources, sont exploités par des puissances étrangères. Ce qui pose un problème de dépendance de ces pays-là vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'exploitation de leurs propres ressources. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des pays africains, il y a ce qu'on appelle la malédiction des matières premières. Nous constatons, et pour le déplorer, que ces matières premières, il y a une ligne de démarcation, en tout cas, il y a un lien de causalité, justement, entre l'insécurité dans ces zones-là et la montée en puissance de ces ressources minières. Ces liens qui sont établis, c'est quoi? C'est que justement, c'est la convoitise des puissances occidentales.
Ces pays devraient-ils axer leur stratégie de développement sur la transformation de ces ressources naturelles?
Ils doivent axer à ça parce que c'est pour sortir de la dépendance. Maintenant, ces stratégies de développement doivent être axées effectivement à la transformation de ces matières premières-là. Si vous regardez la plupart des économies subsahariennes, plus de 70% des produits sont importés. Donc, ça veut dire que les produits qui sont consommés sont importés. Or, pourtant, la plupart de ces produits-là, les matières premières viennent, n'est-ce pas, de l'Afrique, de ces mêmes pays. Donc, du coup, il y a un problème d'emploi qui se passe là. Et j'ai l'habitude de dire que l'Afrique est ce que j'appelle aujourd'hui exportateur d'emploi. On exporte l'emploi chez les autres, on est importateur de chômage. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'on ne puisse pas transformer ces matières premières-là en produits finis, en produits semi-finis dans nos pays, c'est qui constitue effectivement des goulots d'étanglement par rapport au chômage. Et en retour, justement, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous participons à la création d'emplois dans les autres structures. Ce qui constitue un problème fondamental par rapport à la survie de nos économies pour le long pour l'emploi et pour la jeunesse africaine. Donc, par conséquent, il y va de la croissance économique de nos pays, il y va de l'avenir de nos pays, de mettre en place les mécanismes permettant la transformation de nos matières premières, en tout cas les innovations, pourquoi pas mettre en place un fonds générationnel qui permet, n'est-ce pas, de prendre en compte effectivement la transformation de ces matières premières-là en produits finis ou en produits semi-finis, pour pouvoir créer effectivement de l'emploi dans nos pays.
Sulaiman Keïta, vous êtes enseignant, chercheur, spécialiste des finances publiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci Karima Hasnaoui. C'était Zoom sur le monde à 17h20. Et sans transition, passons à l'instant santé avec Hassan Choumache.
Ce programme vous est présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
L'instant santé avec Hassan Choumache.
En cette période hivernale, les services de réanimation reçoivent énormément de malades victimes du virus de la grippe. Ces malades arrivent avec des détresses respiratoires. Même lorsque les médecins arrivent à les sauver, ils gardent malheureusement des séquelles. Les experts insistent sur la vaccination. Sechmesh est allé au niveau du service de réanimation du CHU Mustapha Bacha à Alger, à rencontrer pour nous le professeur Mourad Ouali, chef service de réanimation.
Professeur, au niveau de votre service, service de réanimation, quel type de malades vous recevez?
La période hivernale, la période de froid, il y a une recrudescence des infections respiratoires basses. Ces infections respiratoires basses peuvent être dues à plusieurs germes. Il faut faire la différence entre les pneumopathies bactériennes et les pneumopathies virales. Ce qu'on voit actuellement, effectivement, c'est beaucoup plus les pneumopathies virales. Les virus qui circulent sont des virus déjà connus. Notamment, il y a le fameux virus de la grippe A, il y a le métapneumovirus qu'on connaissait déjà et qui existe. Il y a le VRS, le virus respiratoire syncytial, qui lui est beaucoup plus responsable des bronchiolites du nourrisson, mais aussi des infections respiratoires basses chez le sujet âgé et chez le sujet immunodéprimé. Donc s'il y a un message déjà à faire passer, c'est que nous, on est en réanimation. Nous voyons les cas les plus graves. C'est des malades qui viennent en détresse respiratoire sévère. C'est une catégorie de malades particulière. C'est les sujets âgés de plus de 65 ans. C'est les sujets jeunes immunodéprimés qui ont malheureusement des cancers, qui ont des maladies auto-immunes, des lupus, des polyarthrites rhumatoïdes, qui sont déjà sous immunosuppresseurs des fois. Et ces malades-là, lorsqu'ils sont sujets à des virus, même s'ils sont bénins sur le reste de la population, chez eux, c'est responsable d'infections très sévères.
Donc, professeur, vous dites qu'ils arrivent avec des complications.
Tout à fait.
Même lorsqu'on les sauve, j'imagine qu'ils gardent des séquelles.
Exactement. Maintenant, la prise en charge de ces pneumopathies, elle est codifiée. Mais malheureusement, chez ces malades, s'ils arrivent à un stade de SDRA, de syndrome de détresse respiratoire aiguë, ça nécessite de la réanimation très lourde. Et ce que le citoyen doit connaître, c'est que, fort heureusement, avec les moyens de réanimation maintenant, on arrive plusieurs fois à sauver des malades. Mais très souvent aussi, ils gardent des séquelles, des fois neurologiques, des séquelles cardiologiques et des séquelles aussi respiratoires. Je vais partager avec vous le cas d'une dame qu'on a hospitalisée ici dans notre service, qui était âgée de 70 ans, qui était parfaitement autonome chez elle, et qu'au cours d'une fête, vous savez, on n'a pas cette culture, et d'ailleurs, je profite de cette intervention, M. Hassan Choumache, pour lancer ce message, c'est qu'on doit maintenant avoir la culture de la prévention de ces infections respiratoires, surtout en période hivernale. On le voit bien dans les régions asiatiques, en Chine, où les gens ont cette culture de porter la bavette, de se laver les mains, de prévenir les épidémies, et ça marche assez bien chez eux. Donc cette bonne dame, je suppose que si juste elle avait pris les mesures barrières, que les gens qui étaient avec elle avaient pris des mesures barrières, on aurait évité son hospitalisation en réa. Donc la dame est restée intubée ventilée. Fort heureusement, on a pu la sauver. Elle est sortie à domicile. On la revoit en consultation post-réanimation et elle a gardé des séquelles respiratoires. Elle est sous oxygénothérapie longue durée chez elle. Elle a développé une fibrose pulmonaire et malheureusement, elle n'est plus autonome. Donc, elle nécessite toujours la présence de quelqu'un avec elle, avec tout le poids que ça a sur la société et sur sa famille.
Il y a aussi la vaccination, professeur.
Tout à fait. Donc,
c'est important.
Vous me permettez aussi de parler de ce volet. On ne comprend pas encore. Ça, on a prouvé, il y a toujours ce dogme de l'anti-vaccin. Bon, on aurait compris peut-être que dans la période Covid, il y avait beaucoup de polémiques sur ça, mais la vaccination antigrippale, elle est connue depuis des années. Il faudrait qu'elle soit lancée avant la période hivernale. Je suppose que peut-être les gens qui ne se sont pas fait vacciner auraient pu éviter des hospitalisations et des formes graves. On est en train de le voir sur nos registres que ces patients-là qui sont admis en réanimation n'ont pas été vaccinés. Et du coup, le message, c'est qu'il faut vous faire vacciner. Et il n'est pas encore trop tard. Les gens qui ne sont pas fait vacciner peuvent se faire vacciner actuellement. Le vaccin est disponible. Il couvre plusieurs souches et ça permet de prévenir les formes graves. Même si vous tomberez malade, vous aurez des anticorps qui vont permettre de mieux passer le cap.
Professeur Mourad Ouali, merci d'avoir répondu à nos questions.
Ce programme vous a été présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
17h25 minutes, c'était l'instant santé signé Hassan Chemage. Je vous laisse avec cette pause musicale. Like a Woman signé Lady Blackbird.
Big or small, I do it twice. For you I've been sold. You can stay and love you just like a woman. And love you just like a woman. And love you just like a woman. Troubled times and deeper stuff, I'll be your station where you can lay and love you just like a woman. And love you just like a woman. And love you just like a woman. And when I die, I come back.
Sept heures vingt-huit, Lady Blackbird, Like a Woman.
Maxwell, votre partenaire électroménager avec son radiateur à gaz Black Dragon, vous présente la météo du jour. Maxwell, for a better life.
C'est l'heure de la météo avec Gamme Assurance. Gamme Assurance, votre protection et notre engagement.
Nous commençons cette page météo avec le bulletin météorologique spécial annonçant des pluies parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle de niveau de vigilance orange. Il concerne les wilayas de Béchar, Naam Al Bayed et nord de Béni Abbès. Un BMS valide d'aujourd'hui de Un BMS valide à partir d'aujourd'hui midi jusqu'à 22h avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 40 mm. À signaler des rafales de vent sous orage. Un autre BMS annonçant des chutes de neige affecteront les reliefs dépassant les 1200 mètres d'altitude. Des niveaux de vigilance orange. Il concerne le sud de Tlemcen, Naama, le nord de Béchar, valide d'aujourd'hui à 13h jusqu'à demain lundi 29 décembre jusqu'à 1h du matin. L'épaisseur estimée entre 5 et 10 cm. Par ailleurs, cette nuit, sur le littoral intérieur et au plateau de l'ouest, le temps sera voilé à localement nuageux, avec quelques pluies parfois sous forme d'inverses orageuses. Ces pluies pouvant être localement assez marquées sur l'intérieur et les hauts plateaux, avec atténuation progressive des pluies en cours de cette nuit. À noter quelques chutes de neige qui sont observées sur les reliefs dépassant les 1100 et 1200 mètres d'altitude. Au centre, le temps sera marqué par une prédominance d'éclaircies sur quelques passages nuageux. Ces derniers deviendront de plus en plus fréquents sur l'intérieur. Et les hauts plateaux, avec des pluies orageuses, vont s'atténuer cette nuit. À noter quelques chutes de neige qui seront observées sur les reliefs dépassant les 1300 et les 1400 mètres d'altitude, s'estompant au cours de nuit. À l'est, le temps sera généralement dégagé, devenant de plus en plus nuageux sur les hauts plateaux et les Aurès, avec quelques pluies par endroits sur la région saharienne de Béchar à Abné Abbès. Il sera souvent voilé à nuageux avec quelques pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, ces pluies pouvant être assez marquées et accompagnées parfois de chutes de grêle avec amélioration progressive. À noter quelques flocons de neige qui sont observés sur les sommets de Djebel Antar. Sur les autres régions sahariennes, le temps sera dégagé à partiellement voilé en général, devenant voilé à localement nuageux sur le Nord Sahara et les oasis, avec quelques pluies parfois sous forme d'averses orageuses sur le Nord Sahara. Amélioration en fin de nuit sur les autres régions sahariennes en général, avec des rafales de vent sous orage. Pour demain lundi 29 décembre 2025, sur l'ouest et le centre, le temps sera marqué par des passages nuageux, parfois denses, avec quelques pluies par endroits sur l'intérieur et les hauts plateaux, gagnant les régions côtières à partir de l'après-midi, avec amélioration progressive sur l'intérieur et les hauts plateaux à partir de la soirée. Prévoir de la neige sur les sommets des monts, également de la gelée matinale sera localement observée sur l'intérieur et les hauts plateaux à l'est. Le temps sera souvent voilé et localement nuageux avec quelques pluies par endroits, parfois orageuses, sur les hauts plateaux et les Aurès, gagnant les régions côtières à partir de l'après-midi. Sur les régions sahariennes, le temps sera marqué par des passages nuageux et quelques flocons de neige qui seront observés sur les monts. Côté température, le mercure affichera 17 degrés à Alger, 11 à Mblebouagui, 17 à Skikda, 15 à Blé Abbès, 16 à Guelma, 11 à Khenchla, 16 à Tlemcen, 15 à Tizi Ouzou et enfin 18 à Hassim Saout.
C'était la météo avec Gamma Assurance. Gamma Assurance, votre protection et notre engagement.
C'était la météo avec Maxwell, votre partenaire électroménager et son radiateur à gaz Black Dragon. Maxwell, for a better life.
Avec un bulletin ou après un bulletin météo détaillé, place à la musique avec Jamelia Superstar, souvenez-vous.
Moving, and if it's good, let's just get You rock it just like you're supposed to. Hey, boy, I ain't got nothing more to say. But you just make me wanna go.
Souvenez-vous, un titre sorti en 2003 de son album, sorti la même année, intitulé Thank You. Thank you, merci pour votre fidélité. Nous sommes en direct jusqu'à 18h. En attendant la rencontre Algérie-Burkina Faso, le 17-18, le MAG, c'est jusqu'à 18h. Il est 17h36.
Le correspondant du jour.
L'université Djelele Liabès de Sidi Blabès s'engage dans la récupération et le traitement des déchets métalliques. L'établissement a signé pour cela une convention avec la SNRV, la Société Nationale de Récupération et de Valorisation des Déchets, nous dit Inès Mohamed dans cette correspondance.
Une première démarche en Algérie visant la protection de l'environnement et la valorisation des déchets recyclables comme le cuivre et l'aluminium. Professeur Ammar Tilmatine, responsable de la plateforme technologique à l'UDL et directeur du laboratoire de recherche APELEC à la faculté de génie électrique.
Il s'agit en fait d'un process d'une chaîne de récupération des déchets de câbles électriques usagés. Notre laboratoire a fait une conception d'un process de recyclage de ce type de déchets comprenant plusieurs étapes. C'est un process c'est une première en Algérie qui a été développée par le laboratoire, réalisée à la plateforme technologique de l'université, donc avec les moyens de l'université, ce qui fait donc un caractère assez spécial à ce projet.
Ce projet consiste aussi à récupérer des déchets électriques et électroniques, dont une grande partie des déchets des cartes électroniques et anciens téléviseurs stockés par l'entreprise nationale des industries électroniques ENI, confiée à la SNRV, explique encore une fois le professeur Tilmatine.
Les déchets des équipements électriques et électroniques. Il s'agit de développer un autre process de séparation beaucoup plus important que le premier et cette fois-ci c'est pour recycler tout type de déchets issus des appareils électriques et électroniques comme les petits appareils ménagers, les ordinateurs, les écrans de télévision, les circuits électroniques. Donc l'étude technique a été réalisée par le laboratoire, a été proposée donc à la SNRV et nous attendons une approbation de leur part pour qu'on aide le projet. L'UNI, ils ont un stock de déchets de cartes électroniques et d'anciens téléviseurs. Nous, on signe le contrat à la SNRV et c'est la SNRV qui va traiter pour eux les déchets de l'UNI.
Pour avoir un produit fini, le traitement des déchets passe par plusieurs étapes, nous explique Mokaddam Djilali, ingénieur en électronique, chef d'atelier à la plateforme technologique de l'UDL.
La première étape, on doit broyer les câbles. Ensuite, on les fait passer au convoyeur. Ces derniers sont ensuite acheminés vers la machine électrostatique qui va isoler le plastique, du cuivre et de l'aluminium. Puis, on passe à la phase de séparation magnétique pour éliminer les éventuelles impuretés métalliques restantes.
C'est grâce aux 50 laboratoires de recherche que compte l'université de Sidi Blabès que ces projets ont réussi avec succès et ont largement contribué à en faire l'une des universités de référence à l'échelle africaine et arabe, nous dit le recteur Bouzien.
Pour le moment, on a 55 laboratoires de recherche, toutes disciplines confondues, passant des sciences économiques jusqu'à la médecine. Une diversité d'activités de recherche. Nous avons plusieurs conventions et nos laboratoires actifs dans tous ces domaines-là. Il suffit de voir un petit peu le résultat à l'échelle nationale et à l'échelle mondiale. C'est grâce à ces laboratoires que notre université s'est propulsée vers la première place au niveau national.
Le professeur Tilmatine opte également pour un projet stratégique qui est à la fabrication du matériel didactique actuellement importé de l'étranger. Ces produits destinés au secteur de la formation professionnelle, le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur sont actuellement fabriqués au niveau de la plateforme technologique outre d'un contrat signé dans ce sens avec l'ENI dont l'objectif est de trouver le moyen de les commercialiser sur le marché national. De Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Al Jazeera 3.
Merci beaucoup Inès Mohamed, vous avez signé aujourd'hui le correspondant du jour à 17h bientôt 40 minutes. Il a regretté la roqueuse du désert, pardon, la diva Hezna Bouchalia.
الله محمد يا رسول الله يا رسول الله محمد يا رسول الله يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد
يا رسول الله محمد
محمد يا رسول الله يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد
يا رسول الله محمد يا حبيب الله
À l'écoute d'Alger Chien 3, il est 17h43 minutes.
Vous écoutez Alger Chien 3, l'appel à la prière d'El Maghreb.
الله أكبر
تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
bientôt 46 minutes, c'était l'appel à la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. Chine Rasoul, signé Jmaoui Africa, enfin l'ex-groupe Jmaoui Africa, car rappelons, après la dissolution de ce groupe, s'est lancé en carrière solo. Je parle là de Jamil Rouli Jam. 17h bientôt 49 minutes et on reste avec l'esprit artistique et l'instant culture. Le Festival National du Théâtre Professionnel se poursuit au TNA Mahedine Bechtarzi, Alger. 18 pièces sont en compétition parmi les troupes en lice. Le Théâtre de Délices qui marque sa présence avec la pièce Lear, Roi des Sculpteurs, une adaptation audacieuse du chef-d'œuvre de Shakespeare, nous dit Nadia Siassi.
Sur un texte adapté par Youssef Hassan, le roi Lear, la tragédie universelle de l'écrivain et dramaturge anglais William Shakespeare, et un traitement dramaturgique de Leila Benhicha, le spectacle Lear, roi des sculpteurs, interroge la condition humaine à travers l'histoire d'un sculpteur devenu vulnérable face à ses propres erreurs dans la conception du monde et de son entourage. Ayman Fettas, metteur en scène de la pièce.
Lear, c'est une pièce humaine, elle porte l'essence de l'humain, l'unité de l'humain. Qui est-il et qu'est-ce qu'il veut être? C'est une pièce de divertissement. Quant à ses interprétations philosophiques, il y a le plaisir du regard puisé dans ton patrimoine local, tu atteindras l'international.
Une approche scénographique captivante, un décor recherché et créatif s'appuie sur la réappropriation culturelle, histoire de reproduire des éléments du patrimoine de la région de Djelfa complètement salués par le public.
Alors, je vous avouerai assez époustouflant. Le jeu d'acteur, belle performance en tous les cas.
Ah oui.
C'était bien.
J'ai aimé.
Dédiée au comédien et metteur en scène Abdallah Hamlaoui, la 18e édition du Festival National du Théâtre Professionnel se poursuit jusqu'au 1er janvier avec comme thématique le théâtre réduit les distances et ça se déroule au Théâtre National Algérien Mahidine Bachtarzi.
J'espère que vous avez pris note, ça se poursuit jusqu'au 1er janvier. Sultana, Yesr Santani. Avec des rythmes entraînants, encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci de vous choisir, Alger Chintroy, il est 17h55. Place à Reda Menassel, TIC et Média.
Bonjour, on en parlait comme d'un nouvel Eldorado, un monde où tout serait possible. Travailler, apprendre, voyager, acheter sans bouger de chez soi. En 2025, le métavers n'a pas disparu, mais il a changé de visage. Fini l'époque de la liberté absolue, place à la régulation. Aux États-Unis, la Federal Communication Commission et l'Union européenne ont chacune publié un cadre juridique sur la responsabilité des plateformes immersives. Objectif ? Éviter que ces mondes virtuels ne deviennent des zones de non-droit. Harcèlement, fraude, publicité ciblée ou propriété d'avatar. Tout cela désormais fait l'objet de règles très précises. Meta, pionnier du domaine, a dû revoir ses politiques internes. Son Horizon World impose désormais un espace personnel sécurisé autour de chaque avatar, tandis que des filtres automatiques modèrent les comportements abusifs en temps réel. Microsoft, de son côté, intègre des chartes éthique directement dans ces espaces collaboratifs virtuels. Mais ce tournant pose en fait une question un peu plus large. À qui appartient le métaverse au final ? Aux entreprises qui l'hébergent ? Aux utilisateurs qui le peuplent ? Cette régulation est aussi une réponse à l'usure du public. Le grand enthousiasme 2022 a laissé place à la méfiance. Les utilisateurs veulent des expériences utiles et immersives, oui, mais pas des mondes publicitaires déguisé. En somme, 2025 marque la maturité d'un concept qui sort de l'enfance. Le métavers devient en fait un espace public numérique avec ses lois, ses droits et surtout ses devoirs. Reste à savoir si en normalisant le tout ainsi, il ne perdra pas ce qui en faisait sa promesse, celle d'un monde plus libre, plus créatif et peut-être un peu plus humain. À très vite.
À très vite, mesdames et messieurs. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous avez abordé le thème des métavers, cet univers virtuel longtemps présenté comme l'avenir d'Internet qui commence à réfléchir à sa propre réglementation. 17h, bientôt 57 minutes. Il est l'heure pour nous de se dire au revoir pour laisser place à la rédaction sport de la chaîne 3. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a match et le 11 national entre en lice pour sa deuxième rencontre dans le cadre de l'édition, la 35e édition de la CAN 2025 face au Burkina Faso. Et nous souhaitons bonne chance au Vert, au Fennec, et j'espère que la victoire sera au bout du moins des 90 minutes. Merci à vous tous et toutes nous avoir suivis. Un grand merci à Aïcha Hammer qui était à la réalisation, Khaled Mansouri à la console technique et Nesrine Gasseb à la régie d'antenne. Dans quelques minutes, le sommaire de l'édition du soir avec Linda Hammett. Quant à nous, on se dit à demain. Ciao, ciao.
حارو من واللي شلو
وسلام فرج الله اخضر ولا